La nuit des ours a débuté sur la place de la gare. D'ailleurs, on entend l'écho du buet, la belle fanfare de Valorcine. Vous êtes sur le 90.5 et nous recevons à notre studio caravane Xavier Dunant. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Donc, Valorcine d'abord, guide du patrimoine, accompagnateur en moyenne montagne et enseignant en yoga.
Tout à fait. Plein de petites choses assez hétéroclites, ouais.
Ben ouais, un beau cocktail. Merci d'être avec nous ce soir pour nous parler de Valorcine.
Avec plaisir.
La Nuit des ours est un événement qui révèle le lien qu'entretient l'homme à la nature. Entre autres, l'artisanat est une manière de fabriquer des choses à partir des ressources locales et naturelles. Et ici, à Valorcine, l'artisanat fait vraiment partie de l'histoire des habitants. Dites-nous, Xavier Dunant, comment définissez-vous l'artisanat? Est-ce qu'on entend par là autant les objets artistiques que pratiques?
C'est un petit peu tout ça. Effectivement, chacun met sa petite patte à ce qu'il fait. Et je dirais qu'au départ, Valorcine, c'est plutôt peut-être pour vivre ou pour survivre en tout cas dans cette petite vallée qu'on va vendre des objets. Alors on se rend compte que dans l'histoire, les Valorciens ont toujours bougé, comme partout dans les peuples de montagne. Et ils sont allés vendre, alors principalement à la place de marché qui était la plus proche, qui était Martigny au départ, puis peut-être après sur Salanche, mais beaucoup plus tardivement. Ils ont toujours vendu des objets. Alors cette petite touche de créer quelque chose à la maison, de fabriquer quelque chose, elle a toujours été là. Donc d'une part, oui, pour nourrir sa famille, mais voilà, chacun y a mis sa patte, chacun sa façon de faire, et finalement, ça peut donner des choses très artistiques aujourd'hui. Et voilà, au-delà de l'artisanat, ben, artisanat, artiste, on est quand même toujours dans cette racine d'art. Et finalement, les Valorcins savent aussi très bien s'exprimer sur ce genre de choses.
Mm-hmm. Valorcine est connue pour ses nombreux mélèzes. Et je lisais que les hottes, ces paniers en sac à dos avec lesquels on transportait diverses choses pour la vie quotidienne, étaient faits justement en mélèzes. Dans le livre de Nathalie de Villaz, en tout cas, elle disait que c'est dans les années 90, il y avait encore un Camille Chamel qui confectionnait des hottes en mélèzes. Et il y a une phrase dans le livre, c'est « La hotte symbolise l'adaptation du Valorcin à son milieu ».
Oui, en fait, les Valorcins ont toujours porté. En réalité, c'est une montagne qui entoure une vallée, donc on ne peut pas pousser les murs. Alors, il a fallu faire un choix. Et à partir de là, le choix d'avoir des animaux de bas pour porter les choses, c'était pas possible. Il fallait des animaux qu'on nourrisse pas pour rien. Alors plutôt des chèvres, plutôt des vaches, et puis peut-être ponctuellement des cochons, mais ça c'est un petit peu hypothétique. Et puis peut-être autre chose, mais pas beaucoup plus que ça. Donc les Valorcins, ils sont toujours déplacés avec une hotte. En fait, tout le monde avait quelque chose sur le dos. On a une des plus anciennes photos de la première, enfin de la route nationale quand elle est faite, 1886, et on voit une dame qui a ses deux enfants d'une part et de l'autre, qui ont peut-être moins de 5 ans et ils ont chacun leur hotte sur le dos déjà.
Ah oui, les enfants ont leur hotte.
Ouais, il y a des petites, des grandes, des moyennes, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
Okay.
On porte quelque chose et on apprend à porter.
Puis c'était chaque famille qui partait dans la montagne, bûcher le mélèze, ils revenaient à la maison, ils faisaient leur hotte. C'était familial ça ou c'était collectif comme activité de faire les hottes ou...
Oui, je pense qu'il y avait quand même un partage à ce niveau-là parce qu'il y avait un savoir-faire. Donc déjà d'utiliser des outils tranchants, il fallait avoir un certain âge pour pouvoir les utiliser, mais ça faisait partie de l'apprentissage de toute façon. Et donc de travailler ensemble, parce que tout le monde travaillait dans la pièce commune, c'était le pel. Et finalement, les jeunes apprenaient sur les plus grands et chacun faisait son bout de chemin. Sans aucun doute, c'était du travail en commun et surtout familial.
Mm-hmm. Depuis quelques décennies, on est dans un contexte de mondialisation, d'uniformisation et d'hyperconsommation, ce qui a détruit en quelque sorte ce savoir-faire artisanal et les spécificités locales. Est-ce qu'on peut dire que ces traditions se sont complètement perdues à Valorcine?
Alors, en partie, c'est vrai qu'on est comme tout le monde, on va travailler, on va pas forcément pointer le matin, mais on va chercher du travail. Les gens de Valorcine, à un moment donné, sont allés travailler dans les hôtels, que ce soit sur Genève, que ce soit sur la région parisienne, que ce soit vraiment partout.
À partir de quand, ça?
Oh ben ça, c'est déjà... Le début du tourisme, c'est assez impressionnant parce qu'il y a une date très première et très, très neuve, c'est-à-dire qu'en 1720, le curé de Valorcine dit déjà à son évêque qu'il y a beaucoup de gens qui passent ici et ce serait bien pour ces voyageurs de mettre une croix sur le bord du chemin.
Ah ouais, ok.
Alors on est même avant 1741 où on parle de Windham et Pocock à Chamonix. Hein, 1742, on a un Pierre Martel qui vient sur Valorcine et qui fait déjà des descriptions, en tout cas. Donc le tourisme, il est déjà très présent. Et donc les gens de Valorcine savent qu'il y a des potentiels, des possibilités, et donc de gagner un peu plus d'argent. Alors ils sont pas forcément avides d'argent, hein, ils ont besoin d'argent, d'une part pour payer leurs impôts, et puis d'autre part pour acheter des denrées. On parle souvent de choses, de plats traditionnels, au-delà de la pomme de terre qui est arrivée au XVIIIe siècle. On parle de polinte, on parle des fois avec du riz, des risottos, des choses comme ça. Ben, tous ces ingrédients, ils viennent pas de Valorcine. Donc, il a bien fallu les acheter ailleurs. Et c'est pour ça que les Valorcins, finalement, allaient vendre leur travail, leur artisanat, et revenaient avec ça. Donc, finalement, de travailler dans les hôtels, ça leur permettait, sur place, ou d'aider les voyageurs, de faire le guide, ou de leur porter des bagages ou autre, ça leur permettait facilement d'avoir une denrée plus importante ici et un travail, quoi.
Ouais. Ben, merci Xavier Dunant de nous raconter une belle partie de l'histoire de Valorcine. Je vous rappelle que M. Dunant est accompagnateur en montagne et connaît Valorcine et ses alentours comme le fond de sa poche, que ce soit sur l'histoire de l'homme que de la nature. On peut vous retrouver tous les mercredis pour une balade de yoga à 14h, donc de 14h à 16h30. Vous pouvez vous inscrire au numéro de téléphone suivant qui est le 06 09 81 36 97, et tous les mercredis matins de 10h à midi, M. Dunant fait une visite du patrimoine de Valorcine. Donc rendez-vous devant l'Office du tourisme. Merci Xavier.
Un grand merci en tout cas, et c'est très sympa de parler de Valorcine qui a tellement de particularités. Donc merci beaucoup d'être ici.
Oui, il y a plein de choses encore à raconter.
Voilà.
Donc on se dit à bientôt.
Bien entendu.
Yeah. since he's known our name forever, but we never knew its game. Till later, the higher we are, the further we will fall.
Caribou, oh que j'en ressens de la nostalgie, tabarouette. Bon, Dans le cadre de la Nuit des ours, on se retrouve encore une fois dans notre studio caravane avec Xavier Dunant, valorsain, guide du patrimoine, accompagnateur en moyenne montagne et enseignant de yoga. Bonjour!
Rebonsoir! Mais oui, dans cette belle soirée des ours.
Merci encore une fois d'être avec nous pour nous parler de Valorcine et ses alentours. Dites-nous, pour parler du Trient, qu'est-ce qui lie les villages de la vallée du Trient?
Alors, c'est toujours la question qu'on se pose, parce que quand on regarde la vallée, on se dit « Ouais, elle est tournée vers la Suisse, on a une frontière au col des Montets, et ainsi de suite. » Alors la géographie, elle est évidente, l'eau, elle s'écoule là-bas, et l'eau noire qui descend de Valorcine s'écoule après, rejoint un torrent, ou on pourrait dire un Trient, puisque c'est quasiment le même nom. Et donc, il rejoint le torrent, puis il s'écoule après jusque dans le Rhône, il arrive à Verneuil, et voilà, ça forme une belle vallée, donc... qu'on peut appeler vallée de l'eau noire du Trient. Effectivement, ça nous rassemble. Et puis après, on se rend compte que la géopolitique, alors c'est vraiment l'emplacement des peuples qui sont installés dans ces vallées, a toujours été un petit peu frontière. Et donc, les frontières se sont passées de part et d'autre. Alors, effectivement, sur les peuples celtes, on ne sait pas trop encore comment c'était, puisqu'il n'y a pas d'écrit. Mais il y a quand même des traces sur le sol et on retrouve par exemple des gravures du néolithique, très anciennes donc, dans ces peuples de montagne ou dans ces lieux de montagne. Et puis après, petit à petit, dès le Moyen-Âge, il y a des choses plus précises qui vont se mettre en place, des abbayes, des évêchés et un prieuré sur Chamonix, et qui va faire que chacun va se partager un peu ce petit lieu. Et donc, malgré l'invention de l'abbé Grégoire à la Révolution, comme les barrières naturelles pourraient être des limites et des frontières de pays, Valorcine, ça ne marche pas du tout, quoi.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
On est vraiment géographiquement, on n'est pas du tout dans ce lieu. On est vraiment entre la Suisse et la France. Et c'est ce qui donne cette particularité. Voilà.
Ouais. Okay, je pensais que tu disais au sens où les habitants, ils refusaient de faire partie.
Non, pas particulièrement. De toute façon, ils étaient un petit peu soumis à qui les gouvernait. Hein. Oui. La liberté, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et on peut même dire qu'aujourd'hui, la liberté... tout un sujet philosophique qui peut être derrière, quoi.
Oui, c'est vrai ça. Puisque la vallée du Trient partage donc la même géologie et la même géographie, pourquoi le village de Valorcine, lui, c'est le seul français finalement ?
C'est vraiment cette histoire de politique. Hein. D'un côté, on a un prieuré qui s'installe à Chamonix, qui va être sous la gouverne de Saint-Michel-de-la-Cluse, qui se trouve dans le Val-de-Suze. On est sur l'ancienne province qui était tenue par un peuple qui s'appelait les Seutrons. Et puis de l'autre côté, on a les Véragres qui sont sur Martigny, les Nantuates qui sont un peu plus loin sur Saint-Maurice. Et tous ces peuples-là, peut-être se sont confrontés ici, pas forcément battus non plus. Mais ça donne après l'évêque de Martigny qui va être l'évêque de Sion, puis le père abbé qui se trouve à Saint-Maurice. Et on a des puissances qui sont au Moyen-Âge très religieuses et qui ont des charismes très très importants.
Ok, d'accord. Mais ça, c'est, il me semble que c'est au 19e siècle que la Haute-Savoie est devenue française.
Oui, alors
donc,
après...
entre le Moyen-Âge et le 19e siècle, il se passe quoi ici?
Ouais, c'est un petit peu tranquille. Hein. On peut dire que ça ne bouge pas vraiment. Les gens ont leur rythme de vie et puis ils vont au plus facile. Je parlais d'échanges tout à l'heure en parlant d'artisanat. Ils vont vendre et ils vont acheter sur Martigny. Il y a les histoires de vignes, il y a des histoires de culture, il y a des histoires d'échanges. Mais on sait qu'il y a aussi des bergers de Valorcine qui vont jusqu'en Maurienne, qui vont dans le Val d'Aoste et qui se promènent beaucoup, voire au-delà, puisque certains sont partis et s'y sont installés. Donc les échanges à travers les montagnes sont constants, quoi.
Ouais. Avant, les Valorciens possédaient des vignes vers Martigny, comme vous dites, et ils descendaient avec leur hôte, qu'on a parlé dans l'entrevue précédente. J'imagine qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup d'interactions donc, entre les Valorciens et les Valaisans, ou je ne sais pas comment on les appelait à ce moment-là, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'interactions
Oui, bien sûr.
Ça, c'est quelle époque environ qu'on...
Alors là, ça dure une très longue époque parce que c'est tout le Moyen-Âge, toute la fin du Moyen-Âge. Et puis, en fait, ça va commencer à s'arrêter en 1860 puisqu'on devient français ici dans ces régions, quoi. Auparavant, tout ce petit monde s'entend assez bien. Il y a un petit peu de restrictions avec les Valaisans, effectivement, parce que... on a une porte qui se trouve au Châtelard et qui permet de fermer de temps en temps. On a un petit peu peur, surtout des grandes épidémies, mais pas forcément des voyageurs et des brigands qui pourraient s'y trouver. C'est épisodique et il n'y a pas de grande histoire à ce moment-là, et surtout des gens qui voyagent et qui marchent en montagne, quoi.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les interactions se sont atténuées entre les Suisses et les Valorciens?
Alors oui, on a eu des grands épisodes quand même à travers le XXe siècle qui ont fait que les grandes guerres qu'on a eues ont quand même laissé des traces importantes. La neutralité suisse dans un sens, la recherche pour certains d'aller se réfugier en Suisse, la fermeture des frontières et puis plein d'anecdotes qui peuvent être aussi internes dans nos vallées qui font que voilà, les uns et les autres sont un petit peu restés chez eux, mais on a quand même plein de familles et de gens qui se sont mariés à travers, qui montrent bien que de toute façon il y avait des échanges. J'ai visité par exemple ce matin au village des Jeurs un endroit où il y avait le bal de la Saint-Charles qui se faisait dans le mois de janvier, et il était très réputé, les Valorciens allaient danser et les Valorcines aussi bien sûr, pour rencontrer leur âme chère pour passer le reste de leur vie. Mais voilà, en tout cas il y avait des échanges aussi très culturel, au-delà des échanges commerciaux.
Ok. Est-ce que toi, en tant que Valorcien, tu ressens un lien particulier avec les gens, par exemple, de Châtelard ou Fin-Haut ou Trian?
Oui, on a la même façon de vivre, de toute façon, ça c'est certain. Ce qui change aujourd'hui, c'est que on a des monnaies qui sont un peu différentes.
Oui, ça change des choses, ça.
Alors, ça change quand même beaucoup, ouais. Les possibilités des uns ne sont pas forcément les mêmes que celles des autres.
En effet.
Alors là où on se retrouve, c'est que culturellement, on a quand même une grande passion pour nos villages. On a une grande passion pour la vie de nos ancêtres. Et on retrouve des associations comme l'association Valistrienzis, qui, elle, regroupe les gens de tous ces villages à travers le patrimoine pour le mettre en valeur, pour le faire découvrir. Et puis pour que, ne serait-ce que les gens d'ici, c'est-à-dire que ceux de Valorcine découvrent un peu le patrimoine de toute la vallée, de Fin-Haut, de Trien, de Salvan, de Verneilla. Et réciproquement, que tous ces personnes qui sont d'un côté et de l'autre cheminent aussi sur les chemins de Valorcine.
Ouais.
Donc, on a beaucoup de plaisir à partager tout ça ensemble.
Où doit-on aller pour vous rencontrer, les gens de cette association-là, de la vallée?
Alors, il y a déjà un site internet, et puis effectivement, on fait des manifestations, on fait des sorties à peu près deux chaque année. On édite un bulletin aussi, et donc, on a une vie plutôt active au niveau des associations, puis dans les villages, quoi, voilà.
D'accord, donc on s'informe aux offices du tourisme, soit à Fin-Haut ou à Valorcine.
Tout à fait, ou en tapotant sur son clavier ou sur sa plaquette, on arrive à trouver tout ça, quoi.
Merci, Xavier.
Avec plaisir, en tout cas, de parler de ce beau coin.
Oui, toujours un plaisir. Je rappelle que vous êtes accompagnateur en montagne, guide du patrimoine et enseignant en yoga. On peut vous retrouver tous les mercredis pour une balade de yoga de 14h à 16h30. Vous pouvez vous inscrire au numéro de téléphone 06 09 81 36 97 et tous les mercredis matins de 10h à midi, pour une visite du patrimoine de Valorcine. Également, le vendredi après-midi, vous proposez une balade sur les plantes sur Valorcine, ce qui doit être super intéressant. Merci encore, Xavier.
Eh bien, un grand merci. À bientôt.
À bientôt.